Vous avez tout à l'heure entendu un passage que vous avez peut-être trouvé difficile à suivre sur sa longueur, à cause de son aspect théorique, certainement. En effet, contrairement aux récits qui racontent des éléments de la biographie de Jésus et auxquels nous sommes plus habitués, ce passage du jour est plus abordable par une lecture personnelle, voire silencieuse, qui permet des pauses réflexives que par une simple écoute. Alors aujourd'hui, donc, notre feuille de culte nous sera utile. J'ai choisi de suivre ce passage pas à pas pour l'expliquer. J'emploie ce dernier terme à dessein car, étymologiquement, expliquer veut dire déplier, comme une carte que naguère il fallait avoir appris à déplier pour saisir l'évidence d'un trajet, en repérer les étapes essentielles et en éviter les impasses ou éviter tout simplement de tourner en rond. Cela dit, une carte nous laisse le choix des chemins de traverse, ce qu'un GPS ne fait pas. Si on poursuit la comparaison vis-à-vis d'un texte, on opposerait une interprétation libre face à une obligation de se référer à une interprétation officielle ou en d'autres termes, un dogme. Je vais donc proposer ce matin un trajet possible, mais qui me semble cohérent. Le serpent de Moïse, qui est évoqué au verset 14, sert à l'auteur pour fabriquer une métaphore du fils de l'homme, anthropos, en grec, souvent mieux traduit aujourd'hui par fils de l'humain, car la langue grecque distingue l'homme masculin de l'humain générique. On lit aussi parfois « fils de l'humanité ». En tout état de cause, ce « fils de l'humain » est pour les Juifs de cette époque la figure qui révèle la fin des temps. Cette figure, les chrétiens l'ont associée à Jésus-Christ. Le serpent de Moïse est évoqué dans le chapitre 21 du livre des Nombres dans l'Ancien Testament. C'était une statue de serpent en bronze. Érigée, elle avait, disait-on, le pouvoir de guérir des personnes victimes du venin de véritables serpents. Et ces derniers, ces serpents, selon cette histoire, avaient été envoyés par Dieu pour punir le peuple. Le peuple qui, dans le désert, perdait patience, qui rechignait à se nourrir de la manne qualifiée par lui de « nourriture de misère ». Mais surtout, ce peuple avait la nostalgie du temps où il était esclave. Cette nostalgie morbide de l'esclavage préféré à la liberté et à l'incertitude qui va avec était sans doute la véritable faute du peuple, faute néanmoins, disons pardonnée, en tous les cas guérie. Dès le verset 14, on peut déjà saisir deux choses. La première est la fonction salvatrice du Fils de l'humain qui ne vient pas pour condamner, mais qui vient pour guérir. Cela sera explicité au verset 17, quand l'auteur dit que « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé ». C'est peut-être anodin que d'entendre cela avec nos oreilles contemporaines, mais je vous invite à réaliser combien la notion de Christ juge était importante, par exemple au Moyen-Âge. De très nombreuses représentations du jugement dernier en témoignent que ce Christ, dit juge, impitoyable même, provoquait de la peur et que le pouvoir de l'Église s'appuyait sur cette peur. Martin Luther, homme de la fin du Moyen-Âge, s'est un jour, on va dire, débarrassé de cette peur en accomplissant sa réforme personnelle, laquelle, vous le savez, est devenue la réforme, avec un grand R. La seconde chose à saisir est ce que j'appelle l'ironie de la croix. Jésus a été mis sur un poteau qui devait en effet être relevé pour que puisse être effectué ce supplice affreux basé sur la gravité. Ce châtiment inventé par les Romains pour humilier a été subverti par les chrétiens qui ont choisi de regarder le monde entier à partir de ce point culminant et qui l'ont regardé ce monde, non pas pour le condamner, mais pour lui offrir le pardon. Le christianisme a transformé cette élévation cruelle en élévation glorieuse et heureuse. le christianisme ne doit pas être compris dans une admiration douloureuse, doloriste du supplice, mais il doit être compris plutôt comme une subversion de ce supplice. C'est très important dans le temps de Pâques de bien en avoir conscience, car cette croix a été finalement dramatiquement mal comprise. La carte de ce texte, qui, comme toute carte, n'est pas si facile que ça à déplier, nous permet de voir et de découvrir sur le chemin bien d'autres choses, et ce dès le verset 15, dont, si vous avez été attentif, la traduction vous a peut-être un peu surpris. Nous lisons dans la Nouvelle Bible Second ceci, « Pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Mais nous avons l'habitude d'entendre « Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Ah, vous ne l'avez pas entendu. Eh bien, je vais le relire. Dans la Nouvelle Bible Second, on lit « Pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. » Et donc, nous avons l'habitude d'entendre « Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Les deux traductions sont possibles en grec, ça c'est clair. La version traditionnelle, celle que vous avez l'habitude d'entendre, suggère que croire au Christ, donc confesser sa foi en lui, c'est-à-dire en fait le nommer, est l'acte qui ouvrirait à la vie éternelle. Et la version que vous avez sous les yeux et que vous venez d'entendre peut simplement signifier que croire, dans le sens faire confiance, c'est une façon d'avoir la vie éternelle en soi. Cela ne commence donc pas par la nomination de l'objet de la foi, mais d'abord par la confiance, croire tout simplement, croire, avoir confiance. Et cette vie éternelle pour Jean signifie littéralement la vie pleine, accomplie, parfaite, c'est le sens du mot grec, et désigne simplement Dieu lui-même, la vie de Dieu lui-même. Croire, c'est avoir Dieu en soi, et bénéficier de sa vie éternelle qui vient donc remplir, accomplir et parfaire notre propre existence. Alors, si vous avez suivi jusqu'ici, vous pouvez vous poser la question de choisir votre façon d'envisager les choses. Vous vous doutez sans doute vers quelle version mon cœur penche, puisque j'ai choisi la version que vous avez sous les yeux. Mais attention! La suite du verset indique tout de même qu'il est nécessaire, dans un second temps, de mettre sa foi en lui pour ne pas se perdre, dit le texte. Mais la première démarche est d'abord confiante avant que d'être confessante. Elle est d'abord du cœur avant d'être nominale, ce qui est logique, car personne, en fait, ne s'est converti par une confession de foi, par une liste de mots. D'abord la confiance. Et ensuite la confession explicite, nominale, voire publique. Passons maintenant au verset 18 à propos du jugement. « Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger », dit cette phrase. Cette phrase, en fait, règle une fois pour toutes la perversion qui est arrivée sur le message chrétien, qui a été exprimée par une Église qui est souvent plus prompte à juger qu'à aimer. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jugement. Il ne faudrait pas croire cela. Cela dit simplement que ce jugement ne vient pas de Dieu. Il consiste simplement dans le fait du choix de l'humain de préférer ses ténèbres à la lumière. Ce jugement est, selon ce texte, un auto-jugement. Veux-tu sortir de prison ? Veux-tu sortir de prison ? Pas de réponse. Ou non. Veux-tu rester aéré dans ton désert ? Pas de réponse. Ou oui. Veux-tu rester dans ta servitude ? Celle que peut-être tu t'imposes, mais aussi celle qui t'a été imposée et contre laquelle tu as renoncé à lutter pour t'en libérer, pas de réponse. Ou oui, tu es donc déjà jugé par toi-même. Car il ne s'agit pas, selon ce passage, que de simplement croire, pas simplement accueillir la vie éternelle en soi et donc n'avoir en somme plus peur de rien, y compris de la mort, mais il s'agit de faire. Et faire quoi ? Eh bien, le verset 21 est parfaitement explicite sur ce sujet quand il emploie une formule originale. Il s'agit de faire la vérité. On sait que le mot grec, qui est traduit par « vérité », se compose d'un assemblage qui renvoie à la notion de « ne pas oublier ». Ne pas oublier. Faire la vérité, c'est ne rien oublier, en particulier ce qui se passe sous les ténèbres, ténèbres parfois habillées de lumière artificielles, comme le clinquant d'une communication qui s'acharne à faire dévier les regards sur la détresse des humains et sur celle d'une création qui s'éteint sous nos yeux aveuglés. Mais aussi ténèbres normales, les trous noirs, on va dire, de l'information, trous noirs qui contiennent en leur sein des violences invisibles et donc inimaginables. Voilà ce que dit ce texte qui est finalement beaucoup plus limpide, beaucoup moins théorique et beaucoup plus finalement optimiste qu'on ne l'aurait imaginé à la première écoute.